Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié chez Odile Jacob en 2008, « Trop intelligent pour être heureux ». Et l'adulte surdoué est un essai de psychologie consacré aux adultes à haut potentiel intellectuel. Jeanne Siofacchi, psychologue clinicienne spécialisée dans la douance, y examine moins la performance intellectuelle que le vécu subjectif associé à une pensée particulièrement rapide, intense et complexe. Son point de départ est volontairement paradoxal, une grande efficience cognitive ne garantit ni facilité relationnelle, ni équilibre émotionnel. Elle peut au contraire accentuer le sentiment de décalage, la lucidité douloureuse, le besoin de sens ou la difficulté à trouver sa place. Le livre popularise le terme zèbre, choisi pour écarter les images trop scolaires ou valorisantes attachées aux mots surdoués. Il vise à fournir des repères de compréhension sans réduire une personne à un score de quotient intellectuel. Entre vulgarisation clinique, réflexion sur les relations et pistes de réappropriation de soi, cet ouvrage cherche à rendre pensable une différence souvent vécue dans la confusion. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le zèbre comme langage pour penser une différence sans hiérarchie, le choix du mot zèbre constitue une des marques les plus connues du livre. Jeanne Siofacchi cherche ainsi à éviter les malentendus du terme surdoué, qui peut évoquer un privilège automatique, une supériorité globale ou une obligation de réussite. Le zèbre désigne au contraire une personne dont le fonctionnement cognitif et affectif peut être singulier, sans l'extraire de la condition commune. La métaphore souligne à la fois la ressemblance avec les autres et une configuration propre à chacun. Cette prudence lexicale est importante, elle limite le risque de transformer le haut potentiel en identité fermée ou en explication universelle de toutes les difficultés. Le livre invite donc à reconnaître des traits récurrents sans les ériger en diagnostic de personnalité. Dans cette perspective, le repérage du haut potentiel ne sert pas à classer les individus, mais à mettre des mots sur des expériences parfois dispersées, impression de penser autrement. Fatigue face aux échanges superficiels, intensité émotionnelle ou sentiment de ne pas être compris. Le concept a aussi une fonction relationnelle. Nommer une différence peut réduire la honte et rendre possible un dialogue plus précis avec les proches ou les professionnels. Mais le terme ne remplace pas une évaluation rigoureuse lorsque celle-ci est nécessaire. L'ouvrage distingue ainsi la reconnaissance de soi de toute étiquette simplificatrice. Deuxièmement, une pensée intense dont les effets dépassent le seul quotient intellectuel. Le livre combat une vision étroite du haut potentiel comme simple capacité à résoudre rapidement des problèmes. Son intérêt central réside dans la description de processus qui touchent simultanément la réflexion, la perception et la vie affective. Une pensée très active peut associer rapidement des idées, anticiper plusieurs conséquences, relever les incohérences et chercher spontanément les nuances. Ces caractéristiques peuvent être fécondes, mais elles peuvent aussi rendre difficile le ralentissement mental, la décision ou la tolérance à des cadres jugés arbitraires. Jeanne Siofacchi relie cette intensité cognitive à une sensibilité souvent forte, sans présenter cette association comme une règle mécanique applicable à tous. L'enjeu est de comprendre que la souffrance éventuelle ne découle pas de trop intelligence en elle-même. Elle apparaît plutôt lorsque les modes de traitement d'information, les attentes de l'environnement et les ressources de la personne entrent en conflit. Une compréhension plus rapide ne protège pas de angoisse, de ennui ou du doute. Elle peut même alimenter ses expériences lorsqu'elle multiplie les scénarios envisagés et les questions sans réponse immédiate. Cette approche élargit utilement le regard, le haut potentiel ne se réduit ni à un avantage scolaire ni à une fragilité. Il décrit un fonctionnement dont les conséquences dépendent aussi du contexte, de l'histoire personnelle et de la qualité des ajustements possibles. Troisièmement, le sentiment de décalage face aux autres, au temps et aux besoins de sens. Une part importante de l'ouvrage porte sur le décalage souvent rapporté par certains adultes à haut potentiel. Il ne désigne pas une incapacité générale à vivre avec les autres, mais une impression persistante de ne pas partager le même rythme, les mêmes priorités ou les mêmes codes implicites. Une personne peut saisir vite une situation tout en peinant à expliquer son raisonnement étape par étape. Elle peut également éprouver une forte impatience devant la répétition, les lenteurs administratives ou les conversations dépourvues de profondeur à ses yeux. Le livre traite ces expériences comme des sources possibles de solitude plutôt que comme des preuves de supériorité. La relation au temps est particulièrement significative, anticipation constante, conscience aiguë de ce qui passe. Ennuis rapides ou difficultés à supporter attentes peuvent créer une tension réelle. Dans le travail comme dans la vie personnelle, le besoin de cohérence et de sens peut aussi rendre certains compromis pénibles. Pourtant, le texte ne propose pas de fuir systématiquement les environnements ordinaires. Il invite à mieux identifier ce qui déclenche la saturation, à clarifier ses besoins et à apprendre des formes de communication moins implicites. Le sentiment de décalage devient alors une donnée à interpréter, non un destin. Cette nuance évite de confondre singularité cognitive, isolement social et incapacité relationnelle, qui sont des réalités distinctes. Quatrièmement, la reconnaissance du haut potentiel comme outil de réappropriation personnelle pour de nombreux lecteurs. La force du livre tient à la fonction de mise en sens attribuée à la reconnaissance du haut potentiel. Certaines difficultés longtemps interprétées, comme de instabilité, de maladresse ou un manque de volonté, peuvent être réexaminées à partir du fonctionnement décrit. Cette relecture ne doit pas devenir une excuse générale ni effacer les autres causes possibles de souffrance psychique. Elle peut toutefois réduire une auto-accusation injustifiée et donner une continuité à un parcours marqué par incompréhension. Jeanne-Sio Fakshin insiste sur le fait que connaître ses caractéristiques ne modifie pas instantanément les mécanismes de pensée ou les réactions émotionnelles. Le bénéfice attendu est plus concret, mieux repérer ses seuils de fatigue, comprendre son rapport particulier à ennui ou à la précision, et choisir des conditions de vie plus compatibles avec ses besoins. Cette démarche peut également faciliter une demande d'aide adaptée, notamment quand une souffrance durable, une anxiété ou des difficultés relationnelles se superposent au haut potentiel. Le livre reste ainsi davantage un cadre de compréhension qu'un manuel de transformation rapide. Sa perspective est intégrative, accepter une différence ne signifie pas se résigner à ses aspects difficiles. Il devient possible de développer des ajustements, de mieux formuler ses attentes et de distinguer ce qui relève de son tempérament de ce qui requiert un accompagnement psychologique. En dernier lieu, des ressources relationnelles et professionnelles à employer avec discernement, l'ouvrage ne présente pas le haut potentiel uniquement sous angle de la difficulté. Il met aussi en avant des ressources possibles, capacité analyse, curiosité, créativité, sens aigu des liens entre les situations et empathie lorsqu'elle peut être régulée. Dans un cadre professionnel, ces qualités peuvent soutenir la résolution de problèmes complexes, la vision globale ou la détection précoce de contradictions. Elles ne produisent cependant aucun succès garanti. Une forte exigence envers soi, une sensibilité aux incohérences ou une difficulté à supporter certaines contraintes peuvent aussi mener à épuisement, à évitement ou à des choix professionnels mal ajustés. La valeur pratique du livre tient à cette double lecture. Il ne conseille pas de brider toute intensité, mais de développer un usage plus conscient de ses capacités. Cela suppose de reconnaître les contextes qui nourrissent la curiosité, de fractionner les problèmes lorsque la pensée devient envahissante et de traduire des intuitions rapides dans un langage compréhensible par autrui. Sur le plan relationnel, il s'agit moins de rechercher des personnes identiques que de construire des échanges où la nuance et la différence de rythme sont admises. Le texte rappelle implicitement que empathie et intelligence analytique ne dispensent pas d'apprendre les limites, la communication et la coopération. Les ressources du haut potentiel deviennent alors plus opérantes quand elles sont articulées à une connaissance réaliste de soi et des situations. En conclusion, trop intelligent pour être heureux intéressera en premier lieu les adultes qui se demandent si le haut potentiel peut éclairer leur sentiment durable de décalage, leur intensité mentale ou leur hypersensibilité. Il peut aussi être utile aux proches, aux parents devenus attentifs au devenir de leur enfant à haut potentiel, ainsi qu'aux professionnels qui souhaitent comprendre les représentations courantes de la douance dans le monde francophone. Sa lecture ne permet pas de conclure seul à un haut potentiel et ne remplace ni bilan psychométrique ni accompagnement clinique en cas de souffrance importante. Son apport est ailleurs, il propose un vocabulaire et un cadre qui rendent certaines expériences plus intelligibles sans les réduire à une déficience ou à une supériorité. Le lecteur peut en retirer des questions pratiques sur ses besoins de sens, son rapport au rythme, sa manière de communiquer et ses conditions de travail ou de relation, par rapport à des ouvrages centrés sur les tests, les performances ou les recettes de développement personnel. Le livre se distingue par son attention au vécu émotionnel et existentiel de l'adulte. La figure du zèbre a donné une visibilité durable à cette approche, en privilégiant la singularité plutôt que la compétition intellectuelle. Cette popularité appelle une lecture nuancée, les descriptions proposées peuvent résonner fortement sans constituer un portrait universel. C'est précisément comme outil de réflexion et non comme étiquette totale que cet essai conserve sa place de référence introductive sur la douance adulte. Si vous souhaitez soutenir Jeanne-Sio Fakshin, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.